Voilà, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, nous allons retrouver tout de suite sur l'antenne et directement dans nos studios Gino Testa pour cette émission sur Saint Padre Pio. Également, au cours de cette émission, il y aura également un entretien avec le père Éric Bidot. Donc Saint Padre Pio, c'est à suivre, c'est tout de suite, c'est sur Radio Maria France. Voilà Gino, bonsoir, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Maria. Pour cette seconde émission consacrée à Padre Pio, nous allons parler de Padre Pio enfant. Donc nous allons parler d'un petit garçon. Padre Pio, donc François Forgione, naît en 1887, le 25 mai, à Pietralcina. C'est un petit village d'environ 3000 habitants, près de Benevento, en Italie. Pour situer, ça se situe à peu près entre Rome et la côte adriatique, San Giovanni Rotondo, à mi-chemin entre ces deux villes. Son papa s'appelle Gracio Forgione et sa maman s'appelle Marie-Joséphine. C'est une famille modeste, mais pas pauvre. Ils ont une maison, ils ont quelques champs qui leur permet d'avoir du maïs, des olives, de faire un petit peu d'élevage, de culture. Padre Pio dira que chez lui, il était difficile de trouver 10 lires, mais il ne manquait de rien. C'est une famille catholique. En famille, tous les soirs, on prie le rosaire. C'est aussi une famille généreuse par rapport aux gens plus démunis. C'est une famille de 8 enfants, dont 3 mourirent jeunes à moins de 2 ans. Je citerai deux noms, Michele, qui est le frère aîné de Padre Pio, et une de ses sœurs, Gracia, qui deviendra religieuse sous le nom de sœur Pia dans l'ordre de Sainte Brigitte. Padre Pio est baptisé le lendemain de sa naissance. Il est né en fin d'après-midi vers 17h et à 8h du matin, sa maman est devant l'église Sainte-Anne, qui est juste à côté de leur maison, et on lui donne le nom de François. Padre Pio avait un oncle qui s'appelait ainsi. La marraine et la sage-femme, et son papa, pour remplir les registres, a mis une croix parce qu'il était analphabète. Padre Pio dira que ses parents ne l'ont jamais frappé. C'était un enfant doux, bon, plutôt réservé. Il n'aime pas jouer avec ses camarades lorsque ceux-ci disent des gros mots ou blasphèment. Tout petit, il en pleure même. Il aime la solitude et le recueillement. C'est un enfant de cœur, assidu. Il prie beaucoup, souvent à genoux, notamment dans l'église. On dit que le sacristain l'y enfermait pour qu'il reste, qu'il puisse rester plus longtemps. Dès qu'il entend une cloche, il court chez sa grand-mère et lui dit « Je veux aller dans l'église ». C'est un gentil petit garçon. Il a écrit à un ami « Je veux être ami avec tout le monde ». Et il a écrit aussi « Jamais l'idée d'une vengeance ne m'a passé par l'esprit ». Vers 5 ans, Padre Pio aura ses premières extases. Il le dira beaucoup plus tard, en 1915, donc des années après. Il le dira à son directeur spirituel. Il pensait que tout le monde voyait comme lui la Vierge, Saint Joseph, Jésus, Saint François. Mais il avait aussi à l'époque, tout petit, des apparitions diaboliques, des formes obscènes, humaines, bestiales. Padre Pio était un petit berger, un peu comme Bernadette et l'autre. Hein. Vers l'âge de 8 ans, il va surveiller dans leur champ 3 ou 4 brebis et une chèvre. Quelquefois, il est accompagné de quelques autres petits bergers, des amis, en particulier un de ses cousins. Ce cousin dira qu'avec Padre Pio, on faisait toujours des processions quand on était dans les champs. Un événement important, lorsque Padre Pio a 9 ans, il va en char avec son papa et quelques autres personnes au sanctuaire de San Pellegrino, sans pèlerin. C'est un martyr. C'est un voyage qui leur prend 6 à 7 heures, ils font 40 kilomètres. Et là, il se passe une chose assez extraordinaire, que l'on voit dans le film sur Padre Pio. Il y a une mère qui amène son enfant qui a une malformation de la tête, une tête très large. Et elle veut l'abandonner sur l'autel en disant « Saint Pellegrino, si tu ne veux pas le guérir, au moins reprends-le. » Et à un moment, le petit garçon se met à crier « Maman !» Le curé fait sonner les cloches, criant que Saint Pellegrino avait fait un miracle. Alors on dira que ça a été peut-être le premier miracle de Padre Pio. Des petits épisodes d'un petit garçon, il y a l'épisode des poivrons frits. Un jour, Padre Pio était malade et couché. Et pendant que sa maman était sortie, Padre Pio en profita pour manger tout un plat de poivrons frits. Alors bien sûr, il en fut malade et quand sa maman rentra, elle le trouva tout rouge et en sueur dans le lit. Et les poivrons avaient fait l'effet d'un somnifère et d'une purge. Le lendemain, François était sur pied. Sa maman la surprit aussi en train de se flageller avec une chaîne en fer. Des copains ont vu ça aussi. Et en faisant ça, François pensait à la flagellation de Jésus. Padre Pio, François, dormait parfois par terre. À un moment donné, un de ses oncles lui avait donné un cigare, un Toscano. Ce sont ces cigares en barreau de chaise, très forts. Padre Pio, François, le petit François, est allé fumer ça, il était malade. Son oncle s'est mis à rire, et depuis là, François ne fumera plus. Un petit épisode, ils avaient un terrain à Pianaromana, où plus tard, Padre Pio aura ses stigmates invisibles et non permanents. Il n'y avait pas d'eau à l'endroit et son papa essayait de creuser un puits. Il ne trouvait pas d'eau et Padre Pio lui aurait indiqué un endroit et là, le papa a creusé et de l'eau serait venue. Et on voit toujours ce puits à Pianaromana. La fête de la Libera, la fête du village, est un événement important pour Padre Pio et pour Pietralcina. Il y a un frère mendiant, un capucin, frère Camille, qui passe dans les maisons comme ceci. Il a une barbe. Et Padre Pio est très touché par ça. Et c'est par rapport à cette barbe de frère Camille que Padre Pio décidera d'entrer chez les capucins. Au moment de sa confirmation, Padre Pio est très touché par sa confirmation. Il écrira plus tard : « Ce jour-là, je ressentis l'esprit paraclet. Jour particulier et inoubliable pour toute ma vie, que de douces émotions m'y fait ressentir cet esprit consolateur. En pensant à ce jour, je me sens brûlé d'une très vive flamme qui brûle, consume, mais ne fait pas souffrir. » Les études de Padre Pio, il a eu 3 professeurs. D'abord un monsieur qui enseignait pendant quelques années à lire et à écrire à 3-4 garçons. Ensuite, il a eu un monsieur qui lui a enseigné le latin. C'était un prêtre défroqué qui vivait avec sa maîtresse et ça touchait beaucoup Padre Pio, ça le blessait. Il était mauvais élève, là. Et ensuite, il a un nouveau professeur, Angelo Caccavo, qui lui apprendra le latin, beaucoup mieux. Pour payer ses leçons, le papa de Padre Pio partira 2 fois en Amérique, en 1899 et en 1901. À 14 ans, il va avec son maître et quelques autres camarades au sanctuaire de Pompéi. Et ils reçoivent une lettre d'Amérique où le papa se plaint un petit peu de l'argent ainsi dépensé. Et Padre Pio, donc le François, écrit à son papa de le comprendre parce que dès l'an prochain, il rentrera au couvent et il ne pourra plus vivre ce genre de choses. Il y a une petite histoire d'amourette, même pas d'amourette. C'est les copains de Padre Pio qui avaient écrit, eux, une fausse lettre à l'attention de la fille du chef de gare et l'avaient donnée au maître. Padre Pio était très blessé, mais ensuite les coupables se sont dévoilés, ont avoué. Padre Pio est un petit garçon comme tout le monde. Et je vais vous lire une rédaction qu'avait écrit Padre Pio, donc il a 15 ans, hein, sur le mensonge. Voilà ce qu'écrit Padre Pio, ce petit garçon. « Les mensonges ont les jambes courtes, parce que toute chose avec le temps est découverte. Le mensonge est comme l'huile, qui mélangée à l'eau surnage toujours. Et un homme qui ment n'est ensuite, quoi qu'il dise, plus cru. Je vais vous présenter un petit cas. Hugo, un pauvre petit berger, par un beau jour de printemps, avait amené son troupeau à paître. Et là, il se mit à crier « Le loup, le loup !» À ces cris, tous ceux qui étaient dans la campagne environnante prirent qui des fusils, qui des bâtons, qui qui des bêches et se précipitèrent à l'endroit où était le garçon. Là, ils trouvèrent les brebis qui paissaient et n'étaient menacées par personne. Le petit berger, dès qu'il les vit, se mit à se moquer d'eux. Alors tous comprirent qu'ils avaient été trompés, et tout penauds retournèrent à leur champ. Le jour suivant, le loup vint effectivement. Et quand le pauvre petit berger se mit à crier et à appeler au secours, personne n'accourut. Alors le loup dévora les brebis, et le garçon ainsi apprit à ses dépens à ne plus dire de mensonges. Padre Pio continue. De cette petite histoire, apprenons à toujours dire la vérité, parce que c'est une vertu qui révèle nos sentiments tels qu'ils sont dans notre cœur, avec la droite intention de plaire à Dieu seul, sans s'occuper de ce qui est raconté par les hommes. Le mensonge est la source d'où proviennent les duplicités, les simulations, les tromperies et les flatteries, pour faire croire qu'on dit une chose comme on la sent, alors qu'au même moment, on exprime un sentiment complètement différent de celui qu'on a dans notre âme. Nous devons donc avoir en horreur d'être menteurs. Au contraire, nous devons aimer être sincères et vrais, montrant ainsi que la grâce et la vérité sont la base de notre esprit, de notre cœur, de notre langue, et faire en sorte que nos paroles soient en parfaite conformité avec nos pensées et avec nos actions. Nous devons désirer la sincérité, nous, suiveurs du Nazaréen. Efforçons-nous de la pratiquer avec tous. Fuyons le parler équivoque, ambigu, obscur, à double sens. Ne louons pas ce qu'en conscience on sait digne de blâme. Ne critiquons pas ce qui, sous un certain aspect, peut être louable ou excusable. Toutes ces manières de faire sont des défauts qui s'opposent à la sincérité et nous, disciples du Christ, nous devons nous en garder en aimant toujours la vérité, non par intérêt, ni par attachement à nos opinions, ni par ambition à être un homme sincère, mais par amour de la vérité, qui est le fondement inamovible de notre foi et pour imiter encore Dieu que nous adorons. Efforçons-nous de ne jamais dire de mensonges, ni par malice, ni par excuse, ni pour n'importe quelle autre raison, en nous rappelant que notre Dieu est le Dieu de la vérité. Et s'il arrive qu'en faillissant nous en disions un, corrigeons-nous immédiatement. Et faisant ainsi, nous serons de grande gloire à Dieu et à notre prochain. Padre Pio a horreur du mensonge, il aime la vérité. Pendant la guerre de 39-45, il a dit à un de ses confrères, « Si, en disant un mensonge, cela permettrait d'arrêter la guerre, je ne le ferai pas. » Il y a un autre frère qui a vu un jour Padre Pio sangloter sur son lit. Et Padre Pio lui a dit, « Je suis une charogne parce que je me souviens d'avoir dit un mensonge quand j'étais petit. » Pour Padre Pio, l'humilité et la vérité étaient la même chose. Voilà, c'est un petit garçon de 15 ans qui écrit ça. En 1903, Padre Pio rentre le 6 janvier au couvent des Capucins de Morcone. Et là, il a trois visions, avec l'œil de l'intelligence donc. La première a lieu le 1er janvier. Padre Pio voit à ses côtés un homme majestueux et d'une rare beauté, resplendissant comme le soleil, dira-t-il. Cet homme lui prend la main et lui dit « Viens avec moi, parce que tu devras combattre un valeureux guerrier. » Et là, Padre Pio, le futur Padre Pio, voit une multitude de gens divisés en deux groupes. D'un côté, des hommes avec de très beaux visages et habillés de vêtements blancs. De l'autre côté, des hommes d'aspect horrible, vêtus de noir, comme des ombres. Entre les deux groupes, il y a un grand espace, et à l'improviste, avance un homme de taille démesurée, avec le front touchant les nuages, un homme horrible. Padre Pio a peur. Cet étrange personnage avançait vers lui, mais son guide, l'homme très beau qui est à côté de lui, lui dit « Va contre cet individu, tu dois te battre. » À ces paroles, Padre Pio va au combat. Il terrasse son ennemi qui part. Padre Pio est aidé par le personnage qui est à côté de lui. Et après, ce beau personnage posa sur la tête de Padre Pio une belle couronne, mais il la retire aussitôt et lui dit « J'en ai une autre que je tiens en réserve, pour toi. Si tu combats cet homme par la suite, parce qu'il retournera te combattre par surprise, mais n'aie pas peur, souviens-toi que je serai toujours auprès de toi et que je t'aiderai, toujours, afin que tu risques toujours à le faire ployer. » À ce moment-là, les gens au visage horrible s'enfuient avec des cris. Ceux d'en face applaudissent et font des louanges à l'homme splendide et beau qui est à côté de Padre Pio. Padre Pio comprit un peu, mais pas parfaitement, le sens de cette vision. Il l'a compris lors de la deuxième vision. Padre Pio comprit qu'il allait entrer en religion dans quelques jours pour se dédier au service de Jésus-Christ et de lutter contre ce mystérieux personnage qui vient de l'enfer, contre Satan. Il comprit aussi qu'il ne devait pas avoir peur, car Jésus-Christ allait toujours être avec lui et le soutenir. Et la troisième vision, il l'a entre la nuit du 5 et 6 janvier, donc juste avant de rentrer au couvent des Capucins de Morcone, il vit Jésus et sa mère. C'est très beau parce qu'on voit encore la Vierge Marie ici. Qu'il assure tous les deux de leur prédilection. Jésus pose une main sur la tête de Padre Pio et cela a suffi pour lui renforcer l'âme et, sans aucun regret, quitter le monde pour se consacrer entièrement à Dieu dans le couvent dans lequel il va rentrer. Voilà l'histoire de ce petit garçon, Padre Pio, de sa naissance jusqu'à l'entrée du couvent. On va maintenant écouter le père Éric Bidault, qui est le ministre provincial des Capucins de France, et ça montrera le lien qu'il y a entre les groupes de Padre Pio et puis l'ordre des Capucins, parce que Padre Pio était Capucin. Il y a plusieurs groupes de prières qui sont animés par des Capucins, hein, je pense à Paris, à la rue Boissonnade, à Chambéry, à Bron et d'autres. Voilà.
Voilà Gino, eh bien, nous sommes avec le père Éric. Père Éric, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France. Voilà, père Éric.
Oui, voilà, je remercie donc Gino pour tout ce qu'il vient de dire aussi. Moi je retiens de cette enfance du Padre Pio, particulièrement ce sens de Dieu que le jeune Francesco avait tout enfant. Et puis aussi cette limpidité, Gino nous a lu ce long texte de Padre Pio à 15 ans sur la question du mensonge, et cette limpidité, ce vrai, cet amour de la vérité. Voilà, je trouve que c'est deux traits du Padre Pio enfant qui me marquent. Voilà, Gino m'avait demandé de parler un petit peu plus du Padre Pio capucin, puisque c'est la famille religieuse à laquelle j'appartiens. Je suis de l'ordre des frères mineurs capucins, cet ordre que Padre Pio a choisi effectivement pour ses hommes à barbe. Alors la barbe qui évoquait un peu les moines du désert, qui évoquait une certaine simplicité, un côté même rude, un peu rugueux. Et des hommes aussi joyeux, je pense que c'est ces deux aspects qui ont dû marquer le Padre Pio. Padre Pio aimait beaucoup se définir, et ça a été souvent rappelé, comme un pauvre frère qui prie. Et nous qui le connaissons pour les dimensions, les grâces mystiques, les milliers de personnes qui venaient le consulter, l'hôpital du soulagement de la souffrance, etc., lui aimait d'abord se définir comme un pauvre frère qui prie. Un pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui est conscient de son péché, conscient de sa misère, un frère, parce qu'il est entré dans un ordre qui met la fraternité au centre, hein, fraternité voulue par François d'Assise, entre les frères, entre ceux qui s'engagent en religion, et puis aussi avec tous ceux que l'on croise, et en particulier les personnes les plus en difficulté. Un pauvre frère qui prie, parce que ça c'est sans doute une marque capucine aussi que le Padre Pio a découvert, c'est-à-dire la vie de l'oraison. Les longs moments de solitude, de prière silencieuse. C'est d'ailleurs au cours d'un de ces moments, après la messe, une action de grâce, que le Padre Pio va recevoir les stigmates en 1918. Lorsqu'on visite le sanctuaire de San Giovanni Rotondo, on voit la tribune qui était le cœur des frères, on voit le crucifix aussi qui était au bord de cette tribune donnant sur la première chapelle. Et le Padre Pio est là en prière, en oraison, comme il le faisait toujours après la messe. Et là, regardant le crucifié, ben, il a une vision, une apparition, et à la fin de cette vision, eh bien, il voit que ses mains et ses pieds, ainsi que son côté, saignent. Donc cette dimension d'un pauvre frère qui prie, c'est la manière dont le Padre Pio se définissait. La vie capucine appartient à la famille franciscaine. Du vivant de Saint François, il y a 5000 frères hein, qui l'ont rejoint, donc un grand fleuve finalement qui est né de la vie d'offrande et d'amour vraiment qui le consumait de François d'Assise. Actuellement, il y a, pour ce qui est des hommes, 3 ordres. L'ordre qu'on appelle des frères mineurs ou franciscains en France, l'ordre des capucins, qui sont donc une réforme du XVIe siècle, l'époque de Thérèse d'Avila, des jésuites, qui a été marquée donc par une vie plus rustique, plus simple, et puis aussi cette dimension de l'érémitisme, cette dimension de la prière. Et dont la barbe, en fait, la barbe essaye de faire cette synthèse un peu entre à la fois cette dimension de prière et puis cette dimension un peu rugueuse de la vie. Et puis les frères mineurs conventuels, qui sont héritiers de la branche qu'on appelle aussi les cordeliers en France. Donc voilà, les capucins, avec leur tonalité franciscaine propre, aux côtés des franciscains, aux côtés des conventuels. Également le deuxième ordre, qui sont les sœurs Clarisse, à la suite de Claire d'Assise, des moniales, qui vivent dans le retrait, la louange, la prière. Et puis le troisième ordre, alors là qui est très divers, avec à la fois des sœurs franciscaines, et puis également des laïcs, des prêtres, qui appartiennent à ce qu'on appelle au tiers ordre séculier. Donc voilà, une famille très riche, hein, de plusieurs dizaines de milliers de membres dans le monde entier. Et dans cette famille, la branche capucine. Peut-être un petit mot, suivant le temps que nous avons aussi, pour parler d'une phrase en fait qui se trouve dans une correspondance du Padre Pio en 1920, donc 2 ans après les stigmates, une lettre à son père spirituel, le père Benedetto. Il écrit: « J'avoue avant tout que c'est pour moi un grand malheur de ne savoir exprimer et mettre dehors ce volcan toujours en activité qui me brûle et que Jésus a mis dans ce petit cœur. Tout se résume à ceci, je suis dévoré par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. » Je suis dévoré par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cette phrase m'a toujours paru résumer d'une certaine manière le Padre Pio, c'est-à-dire une âme complètement donnée et protégée un petit peu dès son enfance. Hein. Quand on dit que le Padre Pio ne supportait pas le blasphème, c'est qu'il a un sens de Dieu très très développé. Et une âme consumée, quelqu'un qui aime les âmes, qui est... comment dire, radicalement incompatible avec le péché, et donc qui a ce sens d'autant plus grand du péché qui peut ravager les âmes, et d'où le fait qu'il se soit dévoué corps et âme, c'est le cas de le dire, à la confession, à la direction spirituelle, aux soins des malades aussi avec l'hôpital du soulagement de la souffrance. Tout ça pour finalement réconcilier les âmes avec leur créateur. Je lisais un peu en préparant ces quelques mots, cette idée que la joie du Padre Pio, c'était de remettre chacun sur le chemin du Père du Ciel. Que chacun puisse goûter la rencontre avec le Père du Ciel, tel l'enfant prodigue, que chacun puisse goûter la miséricorde du Père du Ciel qui guérit, qui restaure et qui remet en route. Je suis dévoré par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je trouve que ça dit bien une vocation chrétienne un petit peu ordinaire, où on a eu tendance à opposer les actifs, les contemplatifs, les moines qui seraient contemplatifs, les laïcs qui seraient actifs. Ça n'a pas grand sens. C'est chacun qui, marqué par le baptême, agrégé au corps du Christ dont il est la tête, c'est chacun qui doit demander la grâce et pratiquer aussi la vertu de charité, qui doit demander cette grâce d'être dévoré par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc à la fois un grand sens de Dieu dans sa vie quotidienne, développé bien sûr par la prière, la vie sacramentelle, la lecture de la parole de Dieu, et puis un amour du prochain qui fait que le cœur est dilaté à la présence de l'autre, à sa détresse, à sa souffrance, et que l'on va chercher à y répondre, à la soulager autant qu'on le peut. Le Padre Pio se compare hein, dans certains de ses courriers à Simon de Cyrène. Il écrit à un moment « Je suis le cyrénéen de la souffrance », c'est-à-dire celui qui veut porter la souffrance à la fois spirituelle, morale, physique des personnes. Et on voit comment, par des circonstances très variées, le Padre Pio a pu vivre cette vocation dans la vie capucine, à la fois donc dévoré par l'amour de Dieu dans une vie religieuse, dans un petit couvent du sud de l'Italie, environné de chèvres et de pierres, et en même temps ce cœur universel que aujourd'hui les groupes de prière expriment bien, puisque Padre Pio est connu, aimé sur les cinq continents, parce que lui-même a déjà développé un cœur ouvert aux dimensions du monde, ne serait-ce que dans sa prière et puis dans la correspondance aussi qu'il recevait, à laquelle il répondait. Voilà quelques mots. Peut-être une invitation à nous confier à l'intercession de Padre Pio qui au ciel continue à être dévoré, j'ai envie de dire, par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et je ne doute pas que le Padre Pio lui aussi essaye à sa manière, comme la petite Thérèse, de faire du bien sur la terre, de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Voilà ce que je pouvais dire maintenant.
Oui, merci frère Eric. C'est vrai que cette phrase de Padre Pio de 1921, « Je suis dévoré par l'amour de Dieu et l'amour des hommes », est vraiment très forte et puis synthétise bien ce qu'a été Padre Pio. Il a écrit ça en 1921, c'est une période quand même très très particulière parce que quelques années avant, il y a eu la guerre de 14, où il y a eu pas loin de 20 millions de morts. Il y a eu la grippe espagnole, qui aurait fait entre 20 et 50 millions de morts dans le monde. Padre Pio avait été atteint de la grippe espagnole l'année d'avant, enfin en 1918 plutôt, et il a perdu de ses sœurs la grippe espagnole. Donc tous les gens ont souffert à ce moment-là. Donc on comprend que Padre Pio aime les hommes. Mais quand Padre Pio parle des hommes, c'est l'homme bien sûr, mais c'est l'âme aussi. Padre Pio aime les âmes, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Hein. Padre Pio a dit, et ça montre bien ce qu'est Padre Pio, la plus grande des charités, et de tirer des âmes des griffes de Satan pour les apporter à Dieu. Padre Pio aime les âmes. Il se donne complètement pour les âmes. Dans cette même lettre, il écrit un peu plus loin, « Ô Dieu, pardonne à ce peuple ou efface-moi du livre de la vie. » Ce sont encore des propos de Padre Pio. Il y a un épisode que je trouve très fort de Padre Pio pour montrer combien il aime les âmes. Il est âgé, c'est quelques années avant sa mort, donc dans les années 60, et un frère est à côté de lui et il passe devant la fenêtre du couvent en voyant et il voit l'hôpital de Casa Sollievo, ce magnifique hôpital. Et Padre Pio a cette remarque, si cela permettait de sauver une seule âme, je mettrais le feu, je ferais sauter l'hôpital. Ça montre bien combien Padre Pio aime les âmes.
Il suffit de voir effectivement le temps qu'il a consacré justement par ses lettres au confessionnal, par ses visites aussi aux personnes malades. Hein. Ça sont des signes très très concrets, très très tangibles de la charité. Hein.
Et par rapport à la vérité, on a l'impression que Padre Pio aime les hommes quoi qu'il fasse. Non, il veut sauver les âmes, sauver les âmes des hommes. Et pour bien montrer ça, Padre Pio écrit ça en 1921. Et l'année d'avant, il y a Emanuele Brunato qui vient le voir. Et là, il a un accueil, Emmanuel a un accueil très froid de Padre Pio.
Pour quelle raison?
Parce que à l'époque, peut-être que Emmanuel n'a pas vraiment compris ce qu'était Padre Pio, ce qu'attendait Padre Pio. Emmanuel revient et ensuite devient un grand fils spirituel de Padre Pio parce que c'est lui qui l'assiste pendant les messes dans la cellule numéro 5 dans les années 30. Oui. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup la troisième vision où Jésus vient avec la Vierge pour soutenir Padre Pio. C'est très fort et ça montre bien ce lien entre Padre Pio et Marie.
Hein. Oui. Marie priait quotidiennement dans le rosaire, hein. Marie la mamina du ciel. Il y avait vraiment une proximité de cœur, une proximité affective très grande. Vraiment une invitation à accueillir Marie, hein, nous aussi, dans notre vie, à la prendre par la main et à nous laisser prendre par elle, par la main, oui.
Et des fois, quand des gens venaient remercier Padre Pio pour des grâces obtenues, Padre Pio leur disait « Remercie Marie ».
Oui. Oui, je pense que il était de ceux, et c'est pas le seul saint, hein, je pense au vénérable capucin là, de la région de Toulouse, le père Marie-Antoine, on peut penser aussi à saint Maximilien Kolb, hein, le nombre de grandes figures qui finalement attribuent à la Vierge Marie ce qu'ils sont et leur ce qu'ils peuvent faire de bien. Ça, c'est... je ne sais pas si on peut dire une constante, mais en tout cas, on le trouve dans la vie des saints et des saintes. Ouais.
Et on pourrait rajouter Saint Léopold aussi.
Bien sûr. Ouais.
Moi, j'aime beaucoup cette petite histoire parce que Padre Pio avait de l'humour. C'est un peu la marque des gens du Benevento, là,
ouais.
À faire des battute en italien, des boutades. C'est cette petite histoire que racontait Padre Pio au couvent de San Giovanni Rotondo avec les frères. Ça se passe au ciel, donc Jésus, qui est venu faire un tour sur terre, remonte au ciel. Et là, voit des têtes pas très catholiques. Donc, il va voir Saint Pierre en lui disant « Écoute, tu laisses rentrer un peu n'importe qui ici. Fais ton travail correctement. » Et quelques semaines après, Jésus revient et voit encore plus de gens comme ceci. Et que font-ils au ciel? Donc, il va voir Saint-Pierre de nouveau. Et là, lui parle fermement. « Écoute, fais ton travail, autrement je te remplace. » L'épisode se renouvelle, Jésus part, revient et voit encore plus de gens comme ceci. Et là, il va voir Saint-Pierre vraiment décidé à prendre des mesures. Et Saint-Pierre lui dit, mais c'est pas de ma faute, je n'y peux rien et toi non plus. Et Jésus lui dit, mais comment je n'y peux rien? Et Saint-Pierre lui dit, non, tu n'y peux rien parce que ta mère a les clés et c'est elle qui ouvre la porte pour les faire rentrer. Voilà.
Marie, mère de miséricorde. Et c'est pour ça que à San Giovanni Rotondo, avant d'entrer dans la crypte où est le corps du Padre Pio, il y a un peu cette scène aussi de la Vierge Marie, justement, qui, il me semble, non, dans les mosaïques. J'ai cette mosaïque justement de la Vierge Marie qui est mère de miséricorde par rapport à l'humanité.
Et la Vierge accompagne Padre Pio depuis le début, parce qu'à Pietralcina, il y a la Festa della Libera, la fête de la Madone de la Libera, qui est la fête du village, et c'est toujours quelque chose qui a touché Padre Pio, parce que des années après, à ce moment-là, bah, il en parlera aux gens qui sont autour de lui. Aujourd'hui, c'est la fête à Pietralcina.
Ah oui, donc ça le marquera, ça le marquera toute sa vie, oui.
Et quand il est allé au sanctuaire de Pompéi, c'était quelque chose d'important, là.
Oui, que vous avez rappelé, oui.
Oui. Et par rapport à Bartolo Longo, parce qu'on trouve, les lettres ont été perdues, mais il y a une lettre de Padre Pio à Bartolo Longo.
Oui.
Il y a eu des échanges entre ces deux amoureux de la Vierge.
Ils se reconnaissent en général.
Voilà, ben, vous avez d'autres choses à rajouter?
Non. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Et puis, merci pour la manière dont vous parlez de Padre Pio, à la fois de manière profonde et puis toujours avec des exemples concrets qui peuvent être aussi proches de nous. Donc ça nous aide, une figure de sainteté qui est à la fois exceptionnelle, comme le Padre Pio, ça c'est vrai, du fait des grâces, du fait de ce sens de Dieu, du fait de ces stigmates, mais qui en même temps qu'on sent une bonne âme paysanne et qu'on peut sentir proche de nous aussi. Donc merci beaucoup.
Oui, merci à vous, je suis très content qu'on ait un peu l'occasion de montrer ce lien, cette proximité qu'il y a au travers de Padre Pio entre les groupes de prière et la famille capucine.
Et la famille capucine.
Et franciscaine, bien sûr. Padre Pio a conseillé à de nombreuses filles spirituelles de rentrer dans le tiers ordre franciscain.
Ah oui, comme un lieu de sainteté aussi. Oui.
Voilà, merci beaucoup en tout cas, Père Éric, pour votre intervention. Merci d'avoir participé à l'émission.
Voilà, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir, Père.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, Gino, il nous reste encore quelques minutes, si vous voulez juste peut-être conclure.
J'ai essayé de montrer que Padre Pio était un petit garçon comme tous les autres. Il aimait la solitude, mais il jouait avec ses copains, avec les jeux de l'époque, c'est-à-dire jeter des cailloux à celui qui jetait le plus loin, jouer à la toupie, jouer aux cartes. Et ça tombe bien en cette période où il y a la béatification du petit en Italie. Donc voilà, on a montré Padre Pio tout simple, qui n'est pas saint en naissant, mais qui le devient.
Voilà, on le devient. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Gino, pour cette belle émission. Et on continue avec vous, c'est pas fini.
Le mois prochain,
on vous retrouve le mois prochain.
Et puis au mois de décembre, on fera ça depuis Lourdes.
Très très bien, super. Merci beaucoup, Gino.
Merci à vous.
À
merci
très bientôt.
Radio Maria.
Au revoir.